Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Alors maintenant, André, je vous suggère de parler de vos théologiens du process, puisque un de vos apports au protestantisme a été de faire connaître ces pasteurs américains. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
On pourrait commencer par Tillich ou...
Oui, comme vous voulez.
Oui, parce que j'ai découvert Tillich avant, le sujet du process. Une vie de théologien, une vie de réflexion, une vie tout court, est tissée de rencontres, de l'apport des autres. Et il y a des rencontres vivantes, et je pense à, en particulier à, parmi bien d'autres, à Laurent Gagnebin et Bernard Raymond qui m'ont accompagné, avec qui nous avons fait un trio réfléchissant, lié à la fois par l'amitié, lié par des orientations et des recherches communes. Et puis voilà, il y a eu des rencontres, alors là à travers des livres, des rencontres intellectuelles. Et la première que je mentionnerai, c'est avec le théologien qui m'a probablement le plus marqué, c'est-à-dire Paul Tillich ou Tillich, selon qu'on prononce à l'américaine Tillich ou à l'allemande Tillich. Paul Tillich est un théologien philosophe. Il avait un doctorat dans chacune de ses disciplines et il a enseigné dans l'une et l'autre de ses disciplines allemand. Et qui, en 1933, se trouve démis de ses fonctions en début mars par les nazis qui étaient arrivés au pouvoir fin janvier. Donc il fait partie de la toute première charrette de révocation, si je peux dire. Et dans la liste de ceux qui ont été révoqués avec lui, il n'y avait que des juifs. Lui n'était pas juif, il était le seul non-juif de cette liste. Et Tillich a été à ce moment-là appelé aux États-Unis et a enseigné successivement à New York, à Harvard, c'est-à-dire à Boston, et puis à Chicago. Et il a fait une œuvre tout à fait considérable. C'est quelqu'un qui était dans les années 60-65 pratiquement inconnu en France. Personne n'en avait entendu parler. Et mon attention a été attirée sur lui par un article nécrologique au moment de sa mort, publié par une revue philosophique, études philosophiques. Et c'était un article qui faisait 2 ou 3 pages. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et dans mon voyage suivant à Paris, j'y allais de temps en temps. Je suis passé par la procure du clergé, qui à l'époque, peut-être toujours d'ailleurs, était la grande librairie théologique française. Et j'ai trouvé un petit livre de lui que j'ai acheté et que je me suis mis à lire dans le train en rentrant chez moi. À cette époque, les voyages en train étaient beaucoup plus longs que maintenant. Et pour aller de Paris à Nîmes où j'habitais, il fallait changer à Avignon. Je me suis plongé dans ce livre et j'ai tellement été passionné que j'ai failli rater ma correspondance.
D'accord.
Quelque chose qui m'arrive jamais, je suis un voyageur anxieux. Qui a toujours peur, mais là, j'avais été... Et il y a eu une sorte de fascination quasi immédiate, bien que ce ne soit pas un auteur facile, ce n'est pas un auteur avenant, il écrit comme un professeur allemand, c'est-à-dire lourdement, et une fascination qui s'explique au fond par plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un qui est fondamentalement préoccupé par la relation entre la culture et la religion et la foi. Or, c'était ma préoccupation. Et je trouve quelqu'un qui a réfléchi, qui a une réflexion extrêmement profonde sur ce plan-là.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rapport entre la culture et la religion ? Sur quel plan il axait sa réflexion ? Sur un plan historique, méthodologique
C'est un plan quasi, quasi systématique, quasi existentiel. Je dis ça très brièvement parce que c'est extrêmement nuancé, extrêmement complexe et le résumer en quelques formules risque de déformer. Mais la religion, le rapport entre religion et culture, c'est d'abord pour lui l'idée que dans la culture s'expriment les quêtes fondamentales de l'homme, les questions fondamentales de l'homme sur son propre être. La culture, c'est un immense questionnement. Et que c'est à partir de ces questions qu'il faut se tourner vers la religion pour se demander quelles sont les réponses. C'est le couple question-réponse. Quelles sont les réponses qu'apporte la Bible ? Alors ça, c'est un premier élément. Et le second élément, c'est l'idée que le message biblique, le message évangélique, ou le message, comment dire, de la présence existentielle de Dieu dans notre vie, s'exprime et doit s'exprimer avec les outils conceptuels qu'apporte la culture, dans le langage de la culture. Pour dire les choses un peu vite, la grande question humaine au XVIe siècle, au moment de la Réforme, c'est la question de la culpabilité, c'est la question du péché. Oui. Ça pèse, les gens s'interrogent. Et le moine Luther est quelqu'un qui est obsédé avant sa conversion, mais aussi un peu après, par cette idée du salut. Comment vais-je être sauvé? Et c'est à partir de cette question qu'on a formulé, que la Réforme a formulé le message évangélique avec le thème de du pardon gratuit, la justification par la foi. Mais à d'autres époques, par exemple à la nôtre, à celle où Tillich vit, c'est juste après la guerre 39-45, la grande question qui travaille l'humanité, c'est la question de l'absurde et de l'absurdité. Pensons à Camus, pensons à Sartre, pensons un peu avant à Kafka, pensons à Sioran. Enfin, et là aussi, c'est cette question qui, à partir de laquelle il faut comprendre l'annonce de l'Évangile comme étant l'annonce d'un sens donné à la vie. Alors je répète, il faudrait complexifier beaucoup parce que c'est pas question-réponse simplement, c'est un aller-retour constant.
Presque le chemin opposé du méthodisme, et en même temps, ça se rejoint quelque part. Enfin, je trouve que ce rapport entre la culture, la religion, et puis le chemin qu'on a évoqué une des dernières fois sur l'exemple, le vécu, qui représentait une forme de joie, une forme de témoignage par l'action. Finalement, là, on est dans des tensions entre des pôles différents qui ne sont peut-être pas complètement opposés, mais qui se renvoient la balle sans arrêt.
Oui, qu'il s'agit de mettre, c'est un des grands mots de la pensée de Tillich, en corrélation. Il ne s'agit pas de soumettre l'un à l'autre, mais de les mettre en corrélation. C'est surtout une démarche très opposée à celle qui avait prévalu dans le second tiers du XXe siècle, sous l'influence de Barthes ou du baptisme, parce que ce n'est pas tout à fait Barthes, c'est plutôt le baptisme, qui insistait sur la Bible comme message, et pas du tout sur la réception culturelle. Pas du tout sur cette interrogation de la... il faut partir du message.
Et pourtant, Barthes était allemand aussi, si je me souviens bien, non?
Barthes était suisse, il était...
Ah pardon, d'accord. Oui, parce que...
Il était suisse allemand.
Oui, l'influence, le degré porté à la culture, c'est également un thème philosophique allemand. Enfin, c'est
oui, avec Proche, avec toute la fin du 19e siècle, début du 20e siècle allemand. Mais après la guerre 14-18, il y a une sorte de choc. La guerre 14-18 a représenté pour ces hommes, pour Tillich, qui a été aumônier militaire allemand à Verdun. Mmh. Et à la bataille de la Somme, c'était pas rien. La guerre 14-18 marque la faillite de la culture pour ces hommes. Et brusquement, des gens comme Troeltsch ont été écartés, sont devenus des inconnus. Ils sont revenus ensuite. Mais c'était le message, et pas du tout la culture. Réaction qui a été accentuée par la montée du nazisme et sa volonté d'une germanisation de la religion, et y compris de la religion chrétienne. Et dans cette entreprise diabolique, à certains égards, du nazisme, le baptisme a répondu très fortement en affirmant que le message arrivait d'en haut et qu'il n'était pas question de le lire à partir de la culture, qu'il n'était pas question de récupérer la culture. Alors, la Tilique est tout à fait différent, parce qu'au contraire, la Tilique joue, la culture joue un grand rôle, que la culture est en elle-même des courants absolument démoniaques, c'est certain. Ça, Tilique a été un anti-nazi tout à fait résolu. Mais la culture doit être prise en compte. Et alors, moi, dans les années 70, venant nettement après la guerre 39-45, même si j'étais marqué par elle, il y avait là quelque chose qui me préoccupait, et qui me préoccupait aussi à cause de ma formation philosophique. Et chez Tilique, je trouvais en second lieu, après cette théologie de la culture, je trouvais cette volonté de faire une corrélation entre la pensée philosophique et la pensée théologique, de penser la foi en philosophe, d'avoir une, je dis quelquefois, mais c'est aussi une formule un peu simplificatrice, je dis d'une foi intelligente ou d'une intelligence croyante. Alors, intelligence, il faut entendre là, qui comprend, une foi qui comprend les choses, qui comprend le monde, qui a endossé l'ambition philosophique de comprendre ce qui se passe, et d'une démarche intelligente, d'une recherche de compréhension qui soit en même temps croyante.
Alors, il y avait... c'est là où on retrouve effectivement vos études philosophiques, vos...
Exactement.
L'intérêt philosophique. Alors, je pensais à ça en vous écoutant. N'aviez pas fait toutes ces études de philosophie, vous auriez peut-être été moins apte à comprendre ce message ou à le recevoir.
Ah, probablement. Probablement aussi, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à lire les œuvres de Tilique qui sont imprégnées de philosophie.
My shepherd I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead. Guides my ways in righteousness, and he anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on his pure delights, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me, your good will lead me home. darkest path. I will not fear the evil one, for you are comfort I need to know, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy will lead me
home. Bon, puis alors à côté de ça, tu dis qu'il y a une réflexion politique sur ce que peut être un socialisme chrétien, un socialisme religieux, dit-il, parce qu'il veut associer juifs et chrétiens, et puis une réflexion très grande sur les autres religions. Or, je crois l'avoir évoqué dans une émission précédente, j'ai passé toute mon enfance en Afrique du Nord, et en particulier au Maroc, et j'ai été marqué par un monde musulman que nous connaissions mal, mais que nous côtoyions constamment, et où on voyait l'importance de l'islam, l'importance de la foi en Dieu dans la vie des Marocains que l'on rencontrait. Il y avait une sorte d'évidence de Dieu, et une évidence qui était active. Ces Marocains étaient profondément marqués par la foi islamique. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, si le Maroc s'est sécularisé ou pas, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y avait quelque chose qui nous interpellait. Et quand on voyait arriver, je me souviens d'un catéchisme qui a été très utilisé en France, et qui a la valeur d'ailleurs, le catéchisme de Bury, mais il commençait par dire que toutes les religions sont diaboliques. Nous, sauf le christianisme, mais il disait que la Bible n'est pas une religion, que c'est un message.
Oui.
Et que tous les autres discours sur Dieu sont des discours fallacieux. Et on voyait ce monde musulman avec une sorte d'authenticité qui nous interpellait. Et il y avait là un souci, comment penser les autres religions. Quand, étudiant, sortant du Maroc, je suis arrivé en France, et encore comme tout jeune professeur, j'ai expliqué à mes collègues dans une des premières rencontres à laquelle j'ai participé, ils m'ont interrogé sur mes préoccupations. Je disais que j'avais la préoccupation des religions, ça leur semblait drôle, ça leur semblait farfelu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir, en 50, on présentait l'islam comme une religion pleine décadence. On ne se rendait pas compte du tout qu'il y avait une vie. Il y a des décadences, hein, mais qu'il y avait aussi une vie dedans. Et dans les années 70, quand j'étais nommé professeur, on annonçait la fin de la religion dans le monde sécularisé. Et que quelqu'un se préoccupe comme ça des religions paraissait farfelu.
Vous avez fait œuvre de pionnier, puisque après est venu effectivement les études sur les religions.
Alors après, il y a eu un fort appel vers les religions, de réflexion sur les religions, qui maintenant me semble malheureusement s'atténuer. Alors là, avec Tilik, avec quelqu'un qui a réfléchi, qui a beaucoup réfléchi sur les religions, voilà. Alors c'est donc une œuvre qui, il y a d'autres éléments, mais je cite ces trois-là, la, la culture, la philosophie et les religions qui m'ont fasciné, qui m'ont pris. Et je suis dans l'univers tilikien. J'ai dans ma bibliothèque, je ne sais plus combien de mètres linéaires, enfin 3 ou 4 rayons de livres de Tilik et sur Tilik. J'ai traduit une dizaine de livres de Tilik en français. C'était un travail énorme, parce que c'est pas facile à traduire.
Je me souviens en avoir lu un, il y a longtemps, effectivement, un ouvrage de Tilik que vous avez traduit.
Oui.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.